Vous êtes sur RTL.
Il est 9h.
RTL Matin,
Stéphane Carpentier.
Et surtout Agnès Bonfillon pour le journal de 9h sur RTL. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
En ce samedi 27 juin, on va commencer par un décret qui risque de faire beaucoup de bruit.
Pourtant, personne n'en a parlé lorsqu'il est paru au journal officiel le 17 mars dernier. C'était au tout début du confinement. Alors que nous sommes dans une époque où l'on parle de plus en plus du bien-être animal, ce décret permet, écoutez bien, aux particuliers de vendre leur animal de compagnie à un laboratoire. C'est à peine croyable, Laura Omauchi.
Oui, très concrètement, nous pouvons désormais vendre notre chien, notre chat ou n'importe quel animal de compagnie à un laboratoire pour qu'il devienne un cobaye. L'autorisation est aussi élargie aux différents élevages de chiens de chasse, par exemple. Jusqu'à présent, ces animaux de laboratoire ne pouvaient provenir que de fournisseurs agréés. Ils étaient élevés uniquement pour ces expérimentations. C'est donc une terrible régression pour Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA. Il était au micro RTL de Thomas Dulin.
Ça veut dire que ça peut devenir une pratique régulière et qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle, le mot est abominable, des usines à chiens, où les femelles font des portées, puis ensuite on les abat très rapidement quand elles commencent à ne plus être suffisamment productives. On ouvre la porte pour que n'importe quel animal provenant pratiquement de n'importe où puisse être destiné à des expérimentations animales, ce qui est quand même une des parties les plus noires de la souffrance animale.
Le risque est qu'un business de la vente aux bêtes de laboratoire se développe, alors même que 9 Français sur 10 sont opposés aux expériences scientifiques sur les animaux. Des députés interpellent le gouvernement et demandent l'annulation de ce décret.
Merci beaucoup Laura pour ces explications et on rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. En cette période estivale, les refuges s'attendent encore à recueillir de très nombreux chiens et chats.
On en vient au football et à l'OM, bientôt sous nouveau pavillon.
Ça se pourrait, Mourad Boudjela, l'ancien dirigeant du rugby club toulonnais, affirme avoir une offre de reprise très intéressante. Derrière lui, ce serait surtout des investisseurs du Moyen-Orient. Alors évidemment, quand il est question du club phocéen, ça fait du bruit, même si rien n'est encore sûr, hein, Hugo Hamelin.
En tout cas, Mourad Boudjelal met clairement sa réputation en jeu dans cette affaire. Là, on ne parle plus de petits clubs de foot qu'il a essayé de reprendre ces dernières semaines, comme le SC Toulon et l'Atlético Marseille. Non, là, c'est le rachat de l'OM, avec des centaines de millions de pétrodollars en jeu. Et la moindre fanfaronnade peut coûter cher en termes d'image.
Il y a des fonds du Moyen-Orient qui souhaitent racheter l'Olympique de Marseille. Et moi, je suis simplement porteur de ce message et de ce projet. Voilà.
Au crédit de Mourad Boudjelal, son expérience réussie de président du rugby club toulonnais, 3 fois champion d'Europe avec lui. Son annonce d'hier aussi, qui comporte quand même beaucoup de détails. Mais il reste de nombreuses zones de doute également. Les investisseurs restent mystérieux. Boudjelal est déjà engagé sur un autre projet. Et puis sa manière de claironner comme ça ses intentions, ça ne colle pas vraiment avec les négociations de cette nature habituellement discrète.
Des rumeurs, on en a tous les jours. Donc on préfère avoir des infos fiables et vérifiées quand même avant de s'enflammer. Après, on peut penser que Boudjelal, après, vu ce qu'il a fait au RCT, là, au club de rugby, il a l'air d'avoir quand même un sacré réseau. Il a fait venir des Wilkinson, des Dan Carter, les stars internationales du rugby.
Des supporters de l'OM méfiants, mais qui aimeraient y croire, surtout en cette période de disette avec un Olympique de Marseille criblé de dettes.
Merci Hugo. Hugo Hamelin à Marseille, où évidemment le sujet est sur toutes les lèvres, Agnès, ce matin, malgré le second tour des municipales demain.
La cité phocéenne fait partie des 5000 communes, effectivement, qui doivent encore élire leur maire. Période de réserve oblige, on ne rentre pas dans les détails ce matin, William Galibert. Mais on le sait, hein, demain soir, les résultats dans plusieurs villes seront très attentivement suivis.
Oui, franchement, du suspense, des surprises possibles, des batailles de succession dans plusieurs grandes villes. C'est sûr, on aura de quoi faire à partir de 20h demain, au moment où on commencera à connaître ces résultats. Le Havre sera observé comme jamais. Le Premier ministre y affronte un candidat du Parti communiste et les résultats pourraient aussi influer sur le futur remaniement et donc sur l'avenir du pays tout entier. À Marseille, Jean-Claude Gaudin laisse sa place après 25 ans de règne. Le scrutin s'annonce très serré. L'après Alain Juppé se joue à Bordeaux. Les écologistes sont en lice face à la droite, soutenue par La République En Marche. On va avoir des triangulaires très indécises à Montpellier et à Lyon. L'avenir de Lille, de Toulouse et de Strasbourg est aussi en question. Un œil sur Paris, forcément. Et enfin, sur Perpignan, avec un duel entre le Rassemblement National et la droite. En résumé, demain soir, on ne va pas s'ennuyer.
Et surtout en écoutant RTL, évidemment, avec une édition spéciale de 18h à 23h, présentée par Vincent Parisot, puis Thomas Soto. Merci William Galibert.
Prouver que le harcèlement moral peut conduire une personne au suicide, c'est pas si simple, voire quasi impossible. Au grand regret des familles, on va tout vous dire, vous expliquer juste après ceci, il est 9h05.
RTL Matin.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
La suite du journal d'Agnès Bonfillon sur RTL. Le choc pour les proches d'une victime hier au tribunal correctionnel de Chambéry.
L'homme qui était poursuivi pour avoir harcelé sa compagne jusqu'au suicide en 2016, eh bien cet homme a été relaxé. Pourtant, il avait reconnu sa responsabilité dans cette relation d'emprise. Mélissa avait 23 ans lorsqu'elle s'est défenestrée. Mais pour la justice, impossible de faire le lien, Serge Pueyo.
Mélissa avait été insultée, rabaissée par son compagnon, mais le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité certain entre son suicide et le harcèlement moral dont était accusé son concubin, qui a donc été relaxé, d'où la colère de la mère de Mélissa, Corinne Perrault.
Je suis atterrée, je ne comprends pas, voilà, je ne comprends pas. Le dossier est complet, les aveux, il n'y a rien. Donc non, le harcèlement, elle l'a subi pendant 5 mois, elle a changé. On l'a tous vu changer, tous ses amis l'ont vu changer. Je pense tous les jours à Mélissa et tout ce qu'elle a subi.
Pour son avocate, maître Catherine Ray, les preuves sont souvent difficiles à apporter dans ce type de dossier.
En matière de violence psychologique, tout est insidieux. L'emprise psychologique, c'est de façon tellement insidieuse que même certaines fois les victimes ne s'en rendent pas compte. C'est là la difficulté.
La mère de Mélissa, qui espère que le parquet va faire appel, entend poursuivre son combat.
Il faut vraiment que les juges, que la police, les gendarmes aient une formation. Une formation de comprendre ce que c'est que le harcèlement, de comprendre ce que c'est que l'emprise. Je vais continuer le combat. Je pense à Mélissa, je pense aux autres femmes. Je suis en colère. Voilà.
Serge Pueyo pour RTL au tribunal correctionnel de Chambéry. Cette nuit, les policiers ont voulu choisir un endroit hautement symbolique pour manifester à Paris. Ils se sont rassemblés devant le Bataclan, meurtri durant les attentats de 2015. Pour le 14e jour consécutif, les forces de l'ordre dénoncent les accusations de violence et de racisme dont elles font l'objet. Il aura fallu plus d'un an aux gendarmes de Dijon pour démanteler un système qui entremêlait cambrioleurs, receleurs et revendeurs. Cela se passait dans toute la France. Eh bien, 14 hommes viennent d'être interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir vendu près de 30 millions d'euros d'or, de l'or issu de cambriolage. Écoutez le procureur de Nancy, François Perrin, joint à l'instant par Patrice Thomas.
Les bijoux étaient donc fondus, transformés en petits lingots et par la suite revendus à l'étranger, en Allemagne. Pour le butin, on estime à plusieurs dizaines de millions d'euros. Les investigations menées en Allemagne ont démontré que sur une seule année en 2019, 30 millions d'euros d'or avaient été revendus.
30 millions d'euros d'or revendus ?
C'est gigantesque, c'est d'ampleur, puisque on est sur un réseau national qui faisait concentrer le produit de nombreux vols de bijoux.
Le procureur de Nancy, François Perrin, avec Patrice Thomas.
On en vient, Agnès, à une grosse restructuration chez Sanofi.
Oui, difficile pour le géant pharmaceutique pourtant de dire que c'est lié à l'épidémie de coronavirus, sachant que le fabricant de Doliprane a été très sollicité ces derniers mois. Non, Sanofi explique qu'il faut réorganiser le groupe, d'où la suppression de 1700 postes en Europe, dont un millier en France, Christophe Ponzio.
Effectivement, qu'il y ait une recherche du vaccin contre le coronavirus ou pas, ce plan n'a rien à voir avec la crise actuelle. Le fabricant du Doliprane met en œuvre une nouvelle stratégie décidée en décembre dernier. Elle consiste à se recentrer avec l'abandon de la recherche dans le diabète ou dans les maladies cardiovasculaires, son cœur de cible traditionnel. Sanofi mise désormais sur l'oncologie, le traitement pour les tumeurs cancéreuses. En tout, 2 milliards d'euros d'économies sont attendus au cours des 2 prochaines années. Ces 1000 postes supprimés en France en font partie, après d'autres plans successives de réduction d'effectifs ces dernières années. Les fonctions support et les activités de recherche et de développement devraient être les plus impactées par ces départs que le groupe pharmaceutique veut volontaires. Bercy assure qu'il sera vigilant à cela et à ce qu'aucune des 18 usines de Sanofi ne ferme en France. La nouvelle réorganisation sera présentée aux représentants du personnel lundi après-midi.
Les explications de Christophe Ponzio du service économique et social de RTL. Le gouvernement à la rescousse du secteur de la presse, un secteur sinistré, surtout concernant les quotidiens régionaux et nationaux. Le dispositif prévu doit aider les plus modestes à s'abonner à un journal ou à un magazine via le crédit d'impôt.
Elle s'est battue à la conférence de rédaction pour aborder le sujet, c'est Agnès Bonfillon. Elle parle nudisme. Être nudiste au temps de coronavirus oblige à quelques concessions, Agnès.
Pas de maillot, c'est ok. En revanche, le masque est recommandé, voire obligatoire, comme partout ailleurs cet été. Alors, est-ce un non-sens, une philosophie bafouée ? Pour RTL, Denis Grandjean, vous vous êtes rendu dans dans le camp naturiste de Montalivet en Gironde.
Oui, Jean-Claude est naturiste depuis de nombreuses années. Il reconnaît qu'il a croisé durant son confinement dans le village certains naturistes pour qui le masque était à bannir, presque comme une offense à leur philosophie.
Les personnes qui s'imaginaient qu'ici on était protégés, mais il faut savoir que tout virus ne s'arrête pas à la barrière du CHM. Quelques règles minimales sanitaires ne font pas du tout une entrave à ma liberté ni à ma philosophie du naturisme, bien au contraire.
Le protocole en vigueur dans notre pays est le même qui s'applique dans le village naturiste et notamment dans les 28 boutiques et magasins ouverts sur le site, explique Renaud Brahimi, le directeur du centre héliomarin de Montalivet.
Je pense que les gens ont de fausses idées sur le... C'est-à-dire que tout nu, eh ben, on a plus de surface de contact. Bien au contraire, dans les camps naturistes, il y a une distance qui se fait naturellement quand on est nu, on respecte la bulle de l'autre. Et donc, il y a beaucoup moins de contacts que chez les textiles, par exemple.
Gel hydroalcoolique, port du masque dans les espaces communs. À Montalivet, on compte sur le sens des responsabilités des vacanciers. 14 000 venant de France essentiellement, mais aussi d'Allemagne et des Pays-Bas, sont attendus cet été, soit quasiment le même effectif que la saison dernière.
Au soleil.
Je ne savais pas que vous connaissiez Montalivet en Gironde. En tout cas, c'est une belle découverte. Signé Denis Grandjou pour RTL.
C'est tellement facile, RTL.fr. Toute l'actualité, bien sûr, les courses. Le quintet, c'est Enguin Soisy aujourd'hui.